ses reliures avec Gisèle. Une rencontre intimiste avec les auteurs.
Ils étaient vingt et cent, ils étaient des milliers, nus et maigres, tremblants dans ces wagons plombés qui déchiraient la nuit de leurs ongles battants. Ils étaient des milliers, ils étaient vingt et cent. Ils se croyaient des hommes, n'étaient plus que des nombres. Depuis longtemps, leurs dés avaient été jetés. Dès que la main retombe, il ne reste qu'une ombre. Ils ne devaient jamais plus revoir un été. La fuite monotone et sans hâte du temps, survivre encore un jour, une heure, obstinément. Combien de tours de roue, d'arrêt et de départ qui n'en finissent pas de distiller l'espoir. Il s'appelait Jean-Pierre, Natacha ou Samuel. Certains priaient Jésus, Jéhovah ou Vishnu, d'autres ne priaient pas. Mais qu'importe le ciel, il voulait simplement ne plus vivre à genoux. Ils n'arrivaient pas tous à la fin du voyage. Ceux qui sont revenus, peuvent-ils être heureux? Qu'ils essaient d'oublier, et tenaient qu'à leur âge, les veines de leurs bras soient devenues si bleues. Les Allemands guettaient du haut des miradors. La lune se taisait comme vous vous taisiez, en regardant au loin, en regardant dehors. Votre chair était tendre à leurs chiens policiers. On me dit à présent que ces mots n'ont plus cours, qu'il vaut mieux ne chanter que des chansons d'amour, que le sang sèche vite en entrant dans l'histoire, et qu'il ne sert à rien de prendre une guitare. Mais qui donc de taille à pouvoir m'arrêter? L'ombre s'est faite humaine, aujourd'hui c'est l'été. Je twisterai les mots s'il fallait les twister, pour qu'un jour les enfants sachent qui vous étiez. Vous étiez vingt et cent, vous étiez des milliers, nus et maigres, tremblants dans ces wagons plombés qui déchiriez la nuit de vos ongles battants. Vous étiez des milliers, vous étiez vingt et cent.
Bonjour à tous, bonjour à toutes. Vous êtes bien dans Reliure, c'est l'émission de Gisèle. Et aujourd'hui, nous recevons Georges Patrick Glaise qui nous revient. C'est un professeur d'histoire, il est à la retraite. Il est membre de l'Académie des arts et sciences et lettres du Languedoc. Auteur ariégeois pour notre plus grand plaisir. Bonjour Georges Patrick.
Bonjour Gisèle.
Vous nous avez choisi une belle musique. Elle est en rapport, je trouve, avec le livre. C'est exprès que vous l'avez choisi?
Oui, tout à fait. La musique de Jean Ferrat, pour commencer cette émission Reliure, est en relation, en effet, avec le titre de mon roman qui a paru cette année, Le Crépuscule des Justes. Et en effet, c'est une histoire qui tient à la judaïcité d'un des personnages. Et donc, cette mesure est de circonstance, en quelque sorte. Et puis, elle a versé aussi les années 70, toute cette période où le roman s'étend.
Mmh. Nous allons parler, Georges Patrick, de votre tout dernier opus, une cause que vous n'aviez pas encore abordée dans tous les livres que vous avez écrits jusqu'à là, c'est le sujet des justes. Pourquoi?
Alors, Le Crépuscule des Justes, c'est en effet le titre de mon nouveau roman qui est apparu chez Calvin Levy. Les Justes, vous savez, ce sont ceux qui ont sauvé les Juifs pendant la guerre, dans le contexte que l'on connaît, qui ont évité donc à la population d'être souvent envoyés vers les camps de concentration et vers la mort. Alors, c'est vrai que je n'ai pas beaucoup parlé des Justes dans mes ouvrages précédents. J'en ai fait un peu allusion à quelques-uns quand je parlais sur la région de Seix, parce qu'à côté de Seix, il y a un village qui s'appelle Aulus, et qui a été un haut lieu de la résistance, d'ailleurs, avec des gens admirables qui ont fait, comme Jean Rogal, qui a été un admirable et qui a sauvé, je sais pas, une dizaine de personnes. Et donc, c'est une cause que je n'avais pas trop creusée. Et là, je l'ai creusée davantage, disons, en cherchant à la mettre en valeur, parce que c'est vrai que cette population... confession juive, eh bien, elle a été victime de la barbarie du nazisme et heureusement qu'il y a eu des gens qui ont reçu leur tendre la main, comme il faudrait savoir attendre à tous ceux qui sont persécutés.
Oui. Est-ce que c'est une fiction mêlée avec du vrai, comme vous savez si bien le faire et si bien les cuisiner pour nous rendre de beaux livres?
Il y a des éléments parfaitement authentiques, il y a des éléments qui sont plus romancés dedans, et j'ai mélangé le tout, disons. Hein, bon. Mais il y a des éléments réels, en effet, c'est parfaitement exact sur certains points. Simplement, j'ai délocalisé, moi, bien sûr, j'ai fait une tambouille, je dirais littéraire, hein, de manière à la rendre plus crédible au service du roman, mais ça repose sur des fonds exacts, bien sûr.
Oui. Oui. Votre livre Le Crépuscule des Justes, paru fin 2019 aux éditions Calmann-Lévy, est-ce que c'est encore dans le secret de la famille ou un témoignage?
Ça fait partie du cycle de l'honneur perdu et retrouvé, hein, mm-hmm. disons, ce roman. Je sais que j'écris toujours par des cycles qui sont à peu près des cycles ternaires, de romans sur une thématique de 3 bouquins à peu près. Oui. Et là, c'est le numéro 2, disons, le numéro 3, et j'en train de le finir actuellement. Là. Mais on est dans cette thématique de l'honneur perdu et retrouvé, et c'est un roman, oui, se veut être un témoignage, bien sûr, et souligner ce qu'on ne souligne pas suffisamment, c'est-à-dire le comportement admirable de certains pour en sauver d'autres.
Mmh. Roger Lanzac arrive dans ce village pour y chercher ses racines. Borde Blanche, est-ce que c'est la Borde Blanche dont vous nous aviez déjà parlé dans un précédent livre?
C'est pas la même. C'est les Bordes Blanches, il y en a beaucoup dans oui. le sud-ouest. Hein. Initialement, les Bordes Blanches, c'était ce qui marquait, d'ailleurs, ces pierres qui marquaient les champs, souvent, ou les limites de propriété. Il y a, dans la région de l'Avelanais, plusieurs Bordes Blanches. Il y en a une à côté du lac de Bombelle, d'ailleurs, hein, est parfaitement exact, mais elle n'est pas tout à fait située où je suis moi. Mais c'est un nom assez générique, on dira, mais c'est un nom que tout le monde peut comprendre et qui, au-delà de l'Ariège, disons, peut parler à d'autres lecteurs, d'autres régions,
tout
de l'Occitanie
fait.
Entièrement, voilà. C'est pour ça que c'est un nom assez général, disons, hein, bon, voilà, hein, bon. Mais cette ferme, elle a existé, bon, avec des petites différences, bien sûr, moi je l'ai assaisonné à ma sauce, disons, hein, bien sûr.
Oui. 1998, avec des retours dans les années de la guerre, est-ce que c'est aussi une façon de faire évoluer votre style d'écriture et de garder le lecteur en haleine?
Oui, je crois. J'aime bien de plus en plus intercaler les idées, les périodes, les retours en arrière, etc., de manière à promener les gens dans mon univers, en fin de compte. Bon, j'entrecroise les époques et les générations pour... au service de cette quête d'identité. Et ce que j'ai fait dans Le Crépuscule des Justes, eh bien, on pourra trouver la même technique dans le roman à apparaître bientôt pour la rentrée littéraire 2020.
Mmh. Roger Lanzac va visiter Sainte-Colombe-sur-Lers. A-t-il existé ce Roger ou est-ce que vous l'avez créé?
Alors, Roger a existé, il était parisois, mais il a existé. Et Sainte-Colombe-sur-Lers, c'est un petit village qui est situé à la limite nord de l'Ariège, un petit que j'aime beaucoup, où il y a d'ailleurs un excellent salon du livre, hein, pour ce qui se passe en général au mois de mai, malheureusement, qui a été annulé pour la cause de la crise sanitaire. Pas loin non plus de Chalabre, où il y a aussi un salon du livre, vous voyez. Et ce pays, moi j'ai tourné dedans à plusieurs reprises, pour m'en imprégner pour pouvoir décrire bien cette région et enraciner mon héros là-dedans. Il a existé Roger, mais bon, il avait un autre visage peut-être. C'est toujours pareil, les personnages sont des rassemblements de plusieurs choses du vécu que l'on a. Et donc, sur Roger, eh bien, c'est un personnage de synthèse, en fin de compte.
Vous soulevez aussi le problème de la vie sociale des campagnes. En quoi cela est-ce important pour vous?
C'est très important parce que moi je suis un historien de formation et géographe d'occasion, comme on dit. Hein. Disons que je suis très sensible à ces visages de campagne qui se meurent parce que je trouve qu'on perd une partie de notre histoire, sociabilité, de notre matière, de notre sphère humaine, en fin de compte. Et ces visages que je vois, moi, avec les fenêtres qui sont fermées, qui s'ouvrent des fois dans les maisons uniquement que pour les résidences secondaires, pour accueillir les vacanciers, et qui, pour le reste de l'année, sont désertifiés, ça me fait très triste, en fin de compte, ça me fait frémir. Et je souhaite que les Français redécouvrent leur territoire. Et ça, je pense que dans les circonstances actuelles que nous vivons, eh bien, ils ont sûrement peut-être cette espérance que l'on redécouvre un peu les racines où on vient, sa campagne, ce qui fait le sel de la terre. Et bien sûr, il faut faire attention à ne pas tomber dans un passéisme féroce et forcené, mais sans rejeter, bien sûr, la vie urbaine, mais je crois beaucoup, moi, à la vie rurale de nos campagnes, à cette sociabilité que l'on a, à cette culture, en fin de compte, de proximité sociale et amicale des uns avec les autres. Je suis effrayé de penser que, par exemple, en ville, on peut décéder sans connaître son voisin de palier seulement et s'apercevoir trois semaines après qu'il est mort. Quand je vois en ville, dans la presse, par exemple, on découvre que mon vieux monsieur est mort depuis 6 mois et que personne s'en est aperçu, ça me fait frémir. Mm-hmm. Je crois beaucoup, moi, à cette vie sociale des campagnes et j'incite les gens à y revenir, bon, et à y regoûter. Bon, d'autant plus qu'aujourd'hui, le progrès, la science, la technique fait que les campagnes ne sont plus isolées comme elles étaient jadis. Hein.
Oui.
Moi, je prends l'exemple de la Corrèze, parce que ma femme est corrézienne, où en Corrèze, nous avons des voisins qui sont hollandais, et bien, ils travaillent une partie de l'année, en télétravail, c'est le cas de dire, par ordinateur, depuis chez lui, en Corrèze, sur la Hollande. Donc oui. C'est parfaitement possible. On peut rester à la campagne
oui. Et
travailler à la campagne.
Mm-hmm. Sans dévoiler vos secrets d'écriture, est-ce que Roger va chercher ses racines? Parce que je trouve que dès qu'il arrive, il est chez lui, finalement. Il se fait très vite à cette vie rurale. Est-ce que ce sont ses racines?
Il fait vite parce que d'abord il a été élevé, Roger, dans le Limousin, par des grands-parents qui n'étaient pas trop éloignés de la campagne. Bon. Et puis il a envie de savoir. Et donc il va s'imprégner, s'imbiber. C'est quelqu'un qui a une certaine plasticité sociale. Il sait se fondre dans les choses. Peut-être aussi parce que son métier, il est technicien sur les plateformes pétrolières, le fait beaucoup voyager et donc le rend un peu plus facilement que l'autre citoyenne du monde, en fin de compte. Hein. Et donc, cette plasticité sociale fait qu'il s'imbibe, il retrouve naturellement des racines, il retisse les fibres naturelles qu'il pouvait avoir, en fin de compte, avec ce monde-là. Mm-hmm. Et puis, il trouve aussi des gens agréables, intéressants, qui expliquent ses parents, son père. Et puis, il trouve aussi une dame, une femme.
Et bon, oui.
Ça, c'est un moyen d'accroche important.
Tout à fait. On passe à la page 45 et là, on découvre Jean Sorat. C'est une personne âgée, comme tant d'autres. Est-ce que, justement, ce Jean Sorat devait passer à ce moment-là, au moment où Roger sort de l'épicerie? Est-ce que Roger fait feu de tout bois et est-ce qu'il s'aime finalement au fond de lui-même?
Il y passe parce que Sorat, c'est un peu le prototype du passe-muraille qui est toujours à l'affût. Bon, pendant la guerre, on découvrira qu'il n'a pas été très dans le bon cas, en fin de compte. Ça a été un peu un délateur, un collabo, etc. Et donc, c'est le genre de gars qui est un peu toujours à l'affût des autres, des dénonciations. Bon, donc, il passe parce qu'il rôde, il traîne, etc. Il est un peu un œil hein, qui passe. Et ce... ce Sorat, il n'est pas très, très sympathique, c'est vrai. Bon, et c'est lui qui va être l'une des clés du mystère. Il va falloir beaucoup de temps à Roger Darmon pour arriver à découvrir que, en fait de compte, c'est ce type qui l'a croisé par hasard, parce qu'il a cherché son père ou son journal, qui est au centre du drame que son père a vécu.
Mmh. Vous faites référence aux voyances de Martre Tolosane. Est-ce que vous avez été marqué par cette rencontre?
Oui, bon, à Marthe-Lausanne, j'ai d'abord beaucoup de sympathie, d'affection pour les gens qui y sont, notamment les gens de la médiathèque, bien sûr, mais également j'ai écrit un bouquin sur Marthe-Lausanne, La fille de la fabrique, et ce roman, pour lequel je m'étais inspiré beaucoup de la vie à Marthe, j'avais fait une vraie enquête de terrain pour pouvoir voir un peu comment ça se passait. Ce roman, c'est un roman qui a été qui a été très bien accueilli, qui a bien marché, il y a eu 6 ou 7 éditions successives. Bon, ce roman, moi je suis très attaché parce que il décrit un monde de l'univers qui m'est proche, et puis ces faïences de Marthe, vous savez, on en avait partout, dans toutes les familles, on avait toujours une coupe ou un pot Marthe. Ça se ferait régulièrement. Toutes les familles du Sud-Ouest, il y a plus ou moins du Marthe qui traîne. Et moi, je trouve que c'est une faïence, en plus, qui est très jolie, qui est très colorée, qui a ce côté des arts de la vie et du feu qui sont remarquables et qui parlent à mon sens artistique. Et Marthe, j'en parle souvent, j'y reviens, il y a des connexions, si vous voulez, entre les romans les uns aux autres. Quand on lit bien l'ensemble de ce que j'ai pu écrire, on retrouve d'autres connexions semblables.
Oui, c'est vrai. Je m'en suis aperçue. Vous nous faites revivre aussi des périodes de la guerre, des périodes dures, parce que c'est vrai que ça n'a pas dû être toujours comme sur des roulettes. Est-ce que c'est votre métier qui reste encore votre passion ?
Sans aucun doute, bon, historien un jour, historien toujours, hein. Bon, donc il y a toujours un souci pédagogique dans mes romans, le fait d'expliquer, de démonter certaines fausses visions, certains clichés, de faire connaître aux générations plus jeunes ou au moins jeunes, et ce souci d'une histoire qui est réelle et qui n'est pas une histoire comme on voit au cinéma, où il y a les bons d'un côté et les méchants de l'autre, une histoire qui est souvent en demi-teinte. Bon, hein. Ces années de guerre, moi, elles me sont proches, non pas que je les connais directement, parce que je n'étais pas né, mais mes parents, mes grands-parents m'en ont énormément parlé, donc j'en ai été imprégné très très jeune, et mon métier d'historien, mes recherches, mes études, m'ont enraciné là-dedans, donc je suis un peu aujourd'hui un témoin de la deuxième génération, en fin de compte, ce que ça a pu être, par rapport aux jeunes d'aujourd'hui, qui savent malheureusement pas grand-chose.
Mmh. Avant de faire une pause musicale, on va parler aussi, vous l'avez bien retracé, vous en avez parlé avec des mots justes, je pense, le voyage à Dachau, est-ce que c'est le vôtre ?
C'est le mien. Je me suis trouvé en effet, il y a une quinzaine d'années, en tant qu'enseignant, professeur de lycée, à conduire une classe à Dachau avec mes collègues. Nous sommes partis en bus de Pamiers. Et tout ce que je raconte dedans, c'est parfaitement exact. J'ai décrit ce que j'ai vu de mes yeux, une espèce de décomposition, en fin de compte, psychique, due au choc qu'ils éprouvaient, qui a été ceux de mes élèves. Et c'est vrai que les plus grands, les plus costauds, ceux qui jouent au rugby, parce qu'ils pleuraient comme des madeleines. Et l'impression qu'on était vraiment nus face à une réalité qui nous sautait au visage avec une violence qui était sur laquelle il n'y avait pas de mots pour pouvoir les décrire. Mmh. Et donc cette impression-là, moi je l'ai eue, je me rappelle très bien, j'avais une grosse caméra, je filmais mes élèves pour le reportage, et j'étais incapable de filmer ce que je voyais. Pendant 2 heures, ils sont restés dans le car, les gamins, à pleurer, à chialer, et il n'y avait pas un bruit, il n'y avait rien, il y avait que des hommes et des femmes qui pleuraient.
Oui. Et en tout cas, vous l'avez bien retranscrit, parce que c'est vrai que les larmes sont montées à mes yeux également. Donc, merci de l'avoir retranscrit avec autant de vérité. Georges Patrick, je vous propose de faire une pause musicale. Qu'est-ce que vous nous proposez ?
Je vous propose une chanson qui est une chanson très connue des Platters, Only You, parce que c'est sur cette chanson que le père de mon héros, qui s'appelle François Darmon, dit Francou, va faire une rencontre qui va bouleverser sa vie.
Only only you.
Vous êtes bien sur Radio Galaxie. Georges Patrick Glaize est avec nous. Il nous dévoile Le Crépuscule des Justes, son tout dernier roman paru chez Calman Lévy. Et il est paru en fin 2019. Georges Patrick, qui est Brigitte Espinasse? Sans trop en dire toutefois, puisqu'il faut quand même garder le secret.
Brigitte Espinasse, c'est l'hôtesse du gîte dans lequel mon héros, Roger Darmon, qui est sur les traces de son père, va rencontrer. Il va être hébergé chez elle par hasard. Et c'est une femme qui a une 35-38 ans, qui est veuve, qui est une jolie femme, assez dynamique, qui se bat, notamment parce que son mari est décédé l'année dernière d'un accident de circulation. Elle se retrouve seule avec un fils qui est grand, qui peut faire arriver à la fin de ses études et en même temps conduire la propriété comme elle peut. Donc c'est une battante, c'est une jeune femme courageuse. Elle a ce gîte là qui est aménagé dans la maison de ses beaux-parents, qui lui sert à boucler les fins de mois. Bon. Et c'est comme ça donc, qu'elle accueille au gîte, en faisant un peu de cuisine de terroir aussi, et qu'elle accueille Roger Darmon.
Mm-hmm. Vous avez retracé des moments historiques, l'exil espagnol, la résistance, le maquis, la délation, le sport qu'il y avait à l'époque, les voitures et j'en passe. Pourquoi est-ce que vous aviez besoin? C'était pour le remettre, le roman, dans son contexte?
Oui, c'est pour le remettre dans son contexte, parce que je crois que nous sommes imprégnés par l'histoire et que l'histoire, elle est en arrière-plan de tous nos actes, de toutes nos vies.
Oui.
Et tout ça, en fait, de compte, je l'ai bâti en panoramique du roman, sachant que le roman, c'est un roman qui est sur le thème de l'identité. Roger Darmon, il cherche qui il est pour lui savoir vers où il va, en fin de compte. Et
oui.
c'est la thématique principale, et il va peut-être conduit à découvrir, en fin de compte, tout ce qu'il a, tout ce que son père a été, et que lui a soigneusement caché, pour des raisons qui restent mystérieuses, qu'il va petit à petit appréhender.
Mmh. Vous parlez du métier de pharmacien, alors là, vous le décortiquez. Pourtant, ce n'est pas votre métier. Est-ce que ce sont des recherches, ou peut-être vous avez été directement cherché?
Alors, le métier de pharmacien, bon, je ne suis pas pharmacien du tout. Bon, j'ai eu un ou deux pharmaciennes dans la famille, mais assez lointaines. Non, je me suis adressé simplement à un de mes amis, ou plutôt au mari de mes collègues de travail, qui était prof au lycée, et son mari est pharmacien, et c'est lui qui m'a bien briefé, bien expliqué, disons, il m'a donné les secrets du métier, etc. etc. Voilà.
D'accord. Là, on va aborder une autre personne, un autre personnage, et comme c'est un personnage clé, je ne voudrais pas qu'on en dise de trop. Yvette, est-ce que vous pouvez nous en parler?
Yvette, on peut dire oui. Yvette, d'abord, c'est la fille des instituteurs qui ont recueilli Franco.
Mmh.
Bon. Et c'est une jeune femme qui a dévoué une partie de sa vie aux autres et qui reste célibataire, c'est vrai. Franco, ce gamin que ses parents avaient recueilli, ça a été un peu l'enfant de sa vie, un peu on peut dire ça. Et quand il a disparu, pour elle, ça a été un grand choc. Le fait de retrouver son fils, Roger, eh bien, ça va lui pousser à revoir tous ses souvenirs qui vont remonter.
Oui. Voilà. Ce travailleur espagnol qui est là, qui ne demande rien à personne, lui aussi, c'est un personnage clé. Est-ce qu'on peut en parler sans trop en dire aussi?
Oui, Rafael Mendez,
oui.
Rafael Mendez, c'est un républicain espagnol qui a parfaitement existé. Il s'appelait Rafael, c'était l'un de mes voisins à Foix, le voisin de mes grands-parents à Foix. Et il a été, en effet, ce que décrit la cuisine de chez lui, c'est exactement ça, hein. Avec le calendrier de la faille, c'était un républicain espagnol qui a fait partie de la colonne Duranti, et donc qui était très très engagé politiquement parlant, et bon, il n'avait jamais pu revenir en Espagne. Il était devenu carrier, c'est-à-dire il avait appris l'art de manier la dynamite en faisant sauter les véhicules des franquistes. Hein. Et c'est parfaitement exact, et je me suis servi de lui. Et le portrait que je dresse de cet homme dans le roman, c'est le portrait du vrai Raphaël.
D'accord, et en tout cas, c'est un personnage clé, bien sûr. Roger a une chance inouïe de trouver les bonnes gens. Qui est ce mal léché, justement, de Hippolyte? Parce que lui, franchement, c'est un personnage créé de toutes pièces, j'imagine, en tout cas.
Alors, Hippolyte, oui, il est créé de toutes pièces, oui, mais à partir d'éléments aussi qui existent, bon.
D'accord.
Hein, je suis servi de certains éléments de ma famille qui ont des évolutions, qui ont des évolutions, disons, assez bourgeoises, pour te dire, et qui font partie des notables pour certains. Donc je me suis servi d'eux un peu pour mettre ça en musique. Hippolyte, c'est un drôle de personnage, c'est un type qui n'est pas très très sympathique, c'est un petit seigneur en fin de compte, hein, ni plus ni moins. Tout le roman va montrer à la fois ça. Sa duplicité, son côté arriviste, son côté sans morale aucune, bon, le fait que pour lui, l'argent prime tout, hein, et que le reste, bon, ben, pour lui, c'est très relatif, bon, hein. Donc, c'est un personnage qui est pas très, très sympathique. D'ailleurs, ce personnage, il annonce un peu certains personnages que l'on retrouvera dans mon roman après l'année prochaine.
D'accord. Vous semez ça et là de petites indications. Parce que c'est vrai qu'à un moment, on se dit « Ah mais lui, il doit être comme ça. » Ou « Lui, il va faire ça. » Et est-ce que ça vous sert à relancer la lecture? Ou est-ce que plutôt vous préférez tromper le lecteur pour donner du peps à votre histoire? Parce qu'après, quand on se dit « Ah mais c'était tellement évident. »
Disons que ça relance un peu la lecture, ça relance un peu l'intérêt du lecteur. Et puis ça fait des remises à niveau périodiques pour inciter le lecteur dans le récit. Parce que c'est vrai que le roman a une architecture qui peut être un peu complexe, donc il faut de temps en temps refaire des mises à niveau, des mises à jour, je dirais, pour réactiver le niveau de connaissance où elle était dans l'action. Voilà, voilà, donc c'est ce processus-là. Sachant qu'on mélange les époques, on passe de 1998 à 1960, de 60 à 1940, donc pour que le lecteur puisse s'y retrouver, il est nécessaire de temps de faire des petites remises à niveau.
Oui, et vous les avez bien faites. Comment est-ce qu'on se sent au bout du 18e roman?
Une question difficile à répondre parce que, d'abord, j'ai du mal à concevoir qu'on ait pu en faire 18, et pourtant c'est vrai. L'un a pris la place de l'autre insensiblement, et puis bon, ce sont un peu mes enfants, mais il y en a qui sont un peu éloignés de moi, parce qu'il y a longtemps que je ne les ai pas relus pour certains, et ils ont vécu leur vie, bon. Des fois, ils se superposent un peu comme ça, comme une pile d'assiettes dans les buffets. Ça m'arrive des fois de confondre un peu le personnage de l'un par rapport à l'autre, ça arrive, il y a des oublis qui se font. Donc on se sent un peu étrange, bon, on pense pas trop à ce que l'on fait, on pense à celui qui a à faire. Mmh. Et aujourd'hui, ma pensée, moi, elle va vers le roman que je suis en train d'écrire.
Oh oui.
Moins que vers ce que j'ai écrit. Alors, je me sens comment? Je me sens écrivain, oui, c'est vrai que c'est devenu... c'est devenu au fil des années mon métier. Je suis en retraite donc, de l'éducation nationale aujourd'hui. Mon métier d'écrivain a pris naturellement le relais. Je termine actuellement un roman et déjà je commence à penser à celui qui va venir après, en 2021-2022. Mm-hmm. Vous voyez, on est déjà dans le coin, ça va réfléchir des éléments. Donneront, ils donneront pas, peu importe. Enfin, on commence à anticiper et c'est un métier qui fait de compte qui maintenant me colle à la peau. Hein, bon.
Oui. Est-ce que vos personnages justement vivent toujours comme vous nous l'avez tout à l'heure, vous nous l'avez dit là, il y a quelques instants, est-ce que ceux des anciens livres viennent vous dire parfois hey, « Eh coucou, je voudrais continuer à vivre ».
Oui, alors ça arrive. J'ai encore un message d'un monsieur qui me disait « Est-ce que le Crépuscule des Justes aura une suite ?» Bon, alors, évidemment, on peut toujours avoir la tentation de faire une suite à un roman et de faire revivre le personnage que l'on a eu dans d'autres romans. Les éditeurs, d'abord, n'aiment pas beaucoup ça, globalement, sur le plan commercial. Bon, ça, c'est une réalité. Mais après, ce qu'il y a, un point de vue en tant qu'écrivain, c'est qu'un roman, on l'a écrit. Je veux vraiment, aujourd'hui, moi, reprendre un personnage que j'ai créé il y a 5, 6, 10 ans, et le faire revivre. Je ne serai plus le même par rapport à lui.
Il aura changé.
Il aurait fallu le faire dans la foulée, ce qui était difficile. Mais reprendre un personnage, faire une suite à un roman, c'est difficile. J'avais pensé à plusieurs reprises notamment quand j'ai écrit Le Forgeron de la Liberté, il y a plus de 15 ans,
oui,
qui est paru chez Albin Michel à l'époque, j'avais pensé faire une suite, mais finalement j'ai commencé à écrire quelques pages, mais je n'ai jamais fait aboutir le projet réellement, pour l'instant.
Oui.
Pour l'instant.
Oui. Eh bien, écoutez, Georges Patrick Glaize, vous nous avez proposé encore une très très belle lecture, très émouvante. C'est vrai qu'il fallait le faire, il fallait rendre cette mémoire justement et mettre Yvette en avant, parce que Yvette et cet Espagnol sont des personnages clés de cette histoire.
Oui. Et alors, justement, des personnages clés et des personnages qui ont une épaisseur humaine, ils incarnent ce que peut-être il y a de meilleur dans l'homme.
En effet, c'est vrai. On ne va pas dévoiler justement la fin du Crépuscule des Justes, puisque c'est paru chez Calman Lévy. Attendu, inattendu, on va le laisser découvrir à nos auditeurs. Ne parlons pas justement de cette fin. Est-ce qu'elle était évidente pour vous? Ou est-ce que vous avez dû peut-être faire des recherches?
Ah, ça a été difficile. Ça a été difficile parce que la fin du roman, j'ai hésité entre un scénario noir, un scénario gris et un scénario rose. Et finalement, j'ai pris un scénario plutôt rose pour donner dans l'optimisme, parce que le scénario noir, ça aurait été encore plus dramatique. Donc, je pense qu'il y a assez de drames comme ça. S'il donnait un peu d'espoir et d'espérance aux gens, ils ont bien besoin. Donc, j'ai préféré avoir une issue plus ou moins heureuse, en laissant du moins la porte ouverte sur un certain bonheur.
Tout à fait. Et ça, c'est votre signature, je trouve, cette porte ouverte en chaque fin de roman.
Oui. Alors, c'est vrai que ça, c'est un trait que j'ai. Je suis peut-être un optimiste, hein, ou un incorrigible optimiste, mais c'est vrai que j'aime bien que mes romans se terminent pas trop mal, parce que c'est assez difficile comme ça pour les gens. Les gens, ils prennent un roman, souvent, c'est pour se distraire, pour oublier les soucis qu'ils ont, et Dieu sait si ça non, que ce soit familiaux, économiques, le chômage, etc., licenciement. Donc, si on doit les replonger en plus dans du drame, c'est dans les enfoncer encore plus dans le trou. Donc, moi, je crois que le roman, ça nageait dans l'optimisme le plus béat, hein, il faut quand même qu'il soit porteur d'une certaine espérance. Hein, voilà.
En effet, et de l'espérance, il y en a. En tout cas, merci beaucoup, Georges Patrick, pour ce bel ouvrage. Merci de nous l'avoir fait découvrir. J'y ai retrouvé des moments durs, certes, parce qu'il y a des moments très, très durs, avec ces personnages très durs, justement, que vous avez fabriqués. Des moments vrais, oui. Et puis, c'était aussi votre but pour ce retour aux racines. Il faut le faire, ça, justement.
Il faut retrouver ses racines. Moi, je crois beaucoup, je suis peut-être à l'âge où on les cherche, enfin un peu, encore que maintenant, mes racines, bon, ça sont quand même bien tissées à mon âge, mais je crois beaucoup aux racines. Vous savez, les gens qui n'ont pas de racines, ils n'ont pas d'histoire devant eux, hein. Ils n'ont rien, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Elie Wiesel. Et un peuple sans racines est un peuple sans histoire, bon, et sans perspective, sans avenir. Alors, il faut savoir d'où est-ce qu'on vient pour savoir vers où on va. Hein. Toutes les proverbes de sagesse des nations, que l'on prenne les proverbes africains, les proverbes asiatiques, d'Amérique latine, sont tous basés sur la même constatation. Il faut connaître un peu son passé pour mieux éclairer son avenir.
Mm-hmm. Nous allons nous quitter. Vous avez dit, vous avez un prochain roman qui va sortir très bientôt, finalement. C'est presque demain. Il sortira certainement en automne, c'est ça?
Oui, attends, il est prévu pour l'automne. Je termine le dernier chapitre, une dizaine de pages encore à écrire, et puis je vais l'envoyer normalement fin mars, début avril à mon éditeur. On passera en correction vers le mois de juin, et pour une parution normalement à l'automne. Voilà.
D'accord.
La programmation qui est faite. Voilà.
On peut lever la page de garde pour savoir.
Alors, je vous donne quelques indications.
Oui.
Le roman se passe entre 1900 et 1960. Dans la région de Saint-Martin-d'Oyde, c'est au nord de Pamiers, vous voyez, dans,
oui,
ce qu'on appelle le Terrefort. Hein, et c'est l'histoire d'une famille de hobereaux, donc des gens qui sont des gens un peu de je dirais pas de la haute, mais des gens de qualité dans les campagnes d'alors, qui sont propriétaires d'un domaine, avec des métairies. C'est leur histoire, l'évolution de cette famille dans le vent de l'histoire lui-même. C'est-à-dire qu'on part sur des gens qui travaillent peu, qui sont là, qui ont une éducation de vie assez oisive en fin de compte, et puis petit à petit, tout va changer, et ils vont suivre les péripéties de l'histoire de France, ils vont être soumis à tout ça, avec des chemins différents pour les uns et pour les autres. C'est-à-dire certains vont prendre les bons chemins, d'autres prendront d'autres qui seront moins bons. Hein. Voilà. Et donc bon, je suis là pour l'instant. Je ne sais pas encore le titre. Ça serait, c'est quelque chose qui se décide souvent au dernier moment quand on a mis le point final bon, au roman. Bon. Mais le titre sera sûrement en liaison avec cette espèce de destin et de mémoire. Il y aura quand même cette idée-là derrière, je pense. Bon.
Mais voilà, Georges Patrick, on va se quitter avec, pour cette émission, Les Justes qui ont été abordés, Le Crépuscule des Justes qui est paru fin 2019. Georges Patrick, qu'est-ce que vous allez nous proposer comme musique pour finir cette reliure?
Et alors, pour cette reliure, je vous propose une chanson de Marie Laforêt. Alors Marie Laforêt, c'est une dame, une artiste bien connue qui est décédée l'année dernière, malheureusement, qui, de son nom de famille, s'appelait Domenac, et qui est originaire de la région de l'Avelanais. Hein. Il y a peu de gens qui le savent. Et Marie Laforêt, qui est une grande chanteuse, a chanté notamment une chanson qui s'appelle « Sur la route des Andes ». Et cette chanson, « Sur la route des Andes », ça fait allusion directement à la fin de mon roman, puisqu'il y a, dans la fin du roman, toute une trajectoire qui conduit vers l'Argentine.
Hein. Voilà. En effet, encore une fois, vous nous faites voyager comme vous savez si bien le faire. En tout cas, merci beaucoup Georges Patrick. Je suis vraiment touchée avec ce livre parce que il est à la fois très contemporain, très près de nous, mais à la fois on remonte jusqu'à la guerre et puis on voyage et alors on comprend l'humain. L'humain est vraiment mis en exergue et mis en avant. Et ça, il n'y a que vous qui savez le faire, je pense, de la façon dont vous le faites.
Merci beaucoup, Gisèle. À bientôt.
Sur les chemins des Andes, il s'en va.
Au sommet de la nuit.
des reliures avec Gisèle. C'est une rencontre intimiste avec les faiseurs de livres.